Allary, La confession d'une hirondelle, à Alphonse Daudet. L'an dernier, un mercredi soir, tandis que la nuit tombait, un bâton à la main, je heurtais à la porte du monastère des Prémontrés. Presque aussitôt, la tête bouffie d'un frère portier parut derrière un grillage qui venait de s'ouvrir. « Qui est là ?» interrogea la voix du moine. « Un voyageur ?»« Bien le bonjour. Vous demandez ?»« L'hospitalité pour une nuit dans la maison de Dieu. »« Votre nom ?»« Voici une lettre de recommandation pour le prieur. Veuillez la lui remettre. Cela vous dispensera de savoir qui je suis. » Le grillage fut refermé. J'entendis un bruit de sandales qui s'éloignait. La réponse ne fit pas attendre. On tira les verrous, une clé grinça dans la serrure, et la porte s'ouvrit à deux battants, et le frère m'introduisit dans le cloître. J'arrivais d'Avignon. Oh, j'avais marché 4 heures par un soleil aveuglant dans la poussière de la grande route. Le déjeuner que j'avais fait le matin en compagnie du poète Théodore Bonnel, sous les cigares d'une auberge de la Blanchetteuse, était tombé dans mes talons. Aussi, ce fut avec joie que j'acceptai l'offre gracieuse que me fit le supérieur de prendre place dans le réfectoire autour de l'immense table sur laquelle allait être servi le maigre souper de la communauté. Après le repas, on dit la prière, une cloche tinta, c'était l'heure du repos. Les moines se levèrent, ils firent le signe de la croix, et dans la fureur des lampes pendues dans vos voûtes, je les vis disparaître un à un, le capuchon baissé, les bras croisés sur la poitrine, silencieux comme des fantômes. Un frère blanc, armé d'une petite lanterne, me conduisit à la cellule que je devais occuper. Elle était située à 2e étage, au-dessous même du toit. Un lit de fer, une table et 2 chaises la meublaient. Et c'est là que je passais la nuit. Le lendemain, je fus debout de très bonne heure. Quand la grosse cloche du monastère sonna matine, j'étais recouché, accoudé à la fenêtre de la cellule, et dans la fraîcheur humide du matin, tout en rêvant, je regardais la campagne s'éveiller. Un peu de brise chantait dans les oliviers, des nuages de brouillard flottaient au-dessus du vallon et disparaissaient aussitôt. Les semeurs de genêt montraient de la plaine, les gazouillements joyeux arrivaient jusqu'à moi. En se levant, le soleil dorait la cime des aipilles, et là-bas, sur la colline, les pins gémissaient leurs plaintes mélodieuses, et de temps à autre, des mésanges effarouchés sortaient les profondeurs du bois, volaient en secouant leurs ailes mouillées, puis allaient s'abattre plus loin entre les 2 rangées de vignes. Tout à coup, une voix grêle résonna dans le silence qui m'entourait. Je prêtai l'oreille, et cette voix partait d'un nid de terre gâché et mêlé de paille, menu, bâti contre une gouttière à la hauteur de ma fenêtre. Dans ce nid, il y avait une hirondelle et quatre petits, mais quatre petits qui pouvaient déjà suffire à leurs besoins. Ils ne s'aperçurent pas de ma présence. Ils étaient groupés autour de leur mère, tristes, attentifs, anxieux, buvant, pour ainsi dire, les paroles qui tombaient de sa bouche. L'hirondelle parlait très bas, comme quelqu'un qui n'a plus que peu d'heures à vivre. La pauvre bête faisait peine à voir. Accroupie sur une couche de duvet, tremblant de fièvre, ses longues ailes les pliées, les yeux battus, elle pouvait à peine respirer. Je la vis de nouveau ouvrir le bec en allongeant le cou avec beaucoup d'attention. Je parvins à l'entendre distinctement. Elle disait: Je le sens, mes pauvres petits, c'est bien fini, je m'en vais vous dire l'éternel adieu. Ne vous désolez pas ainsi, il fallait s'attendre à ce qui arrive. La mort est la communauté des hirondelles, c'est la commune loi. J'emporte une dernière joie, qui est elle seule l'adoucissement de mes souffrances. C'est qu'en partant pour l'autre monde, je vous laisse tous en état de gagner votre pain. Avant de fermer les yeux, si la mort m'en donne le temps, je veux vous faire ma confession. Peut-être trouverez-vous dans l'histoire de mes jours passés quelques renseignements qui vous aideront à passer sans rébellion le pesant fardeau de la vie. Approchez donc, mes enfants, chers petits, encore, encore. Ma voix est si faible que si vous restez là-bas, vous ne m'entendriez pas. Je vins au monde, non loin de Constantinople, dans un village turc. J'avais une sœur, morte depuis, un peu plus âgée que moi. Mes parents me gardèrent 3 semaines dans le nid. Et un jour, ma mère vint m'éveiller plus tôt que de coutume. Petite, me dit-elle, tes ailes sont assez fournies maintenant. Il faut songer à les essayer. Allons, allons, paresseuse, lève-toi et prends ta volée. J'étais debout sur le bord du nid, prête à obéir, mais je n'osais pas me lancer dans l'air. J'essayais 20 fois. Oh, le courage me manquait toujours. Lorsque j'avais le malheur de regarder en bas, en voyant le grand vide au-dessus de moi, oh mon Dieu, je ne me sentais pas solide sur mes pattes. Le sang de mes veines me remontait au cœur et tout mon corps frissonnait. Je finis pourtant par avoir raison de la peur qui m'étreignait. Et brusquement, les paupières closes, les ailes grandes ouvertes, je me laissais tomber dans l'espace. Ma mère volait à mes côtés. Elle m'encourageait avec des sourires. Oh, ce n'est pas trop difficile, disait-elle. Cela va tout seul, tu le vois. Ne te presse pas tant. Règle ton vol. Reste là, près de moi. Je vais te montrer Constantinople. Alors, dans un rayon de soleil, je vis des milliers de maisons blanches surmontées de terrasses adossées les unes aux autres. De distance en distance s'élevaient de sveltes minarets, du haut desquels, appuyés sur la balustrade, un muezzin, en extase, chantait la gloire d'Allah. Une large rivière, bordée de lauriers roses et de cyprès touffus, côtoyait la ville. Le bleuissement de la mer s'apercevait à l'horizon. C'est dans la limpidité de ce ciel d'Orient, dans la tiédeur de cet air embaumé, que je vécus les premiers mois de ma vie. Je devins bientôt une véritable hirondelle. Le matin, je chassais les bestioles avec ma sœur, et pendant la grosse chaleur, nous ne punissions question pas le nid. Mais vers le soir, quand la brise se levait, nous volions à pleines ailes vers la ville. C'était une vraie fête. Nous nous mêlions à des vols d'hirondelles voisines. On se poursuivait en se becquetant. Nos mères restaient en arrière, surveillaient nos ébats. Nous passions au-dessus de la rivière, dans les eaux limpides charriaient des casques barcaïques chargés de jeunes gens qui chantaient de mélodies orientales en s'accompagnant de la zourma, et à bout de force, épuisés par ce trajet, nous allions enfin nous reposer sur la coupole de la grande mosquée. Nous restions là de longues heures. La foule bariolée se pressait autour de nous, dans les rues caillouteuses. Près de la mosquée, il y avait un bain turc que fréquentaient les belles dames de Stamboul. De là-haut, nous les regardions sortir et s'en aller, masqués de blanc, ne montrant que leurs yeux agrandis par le col, et laissant après elles une odorante bientôt de musc et de verveine. Un matin, dès l'aube, mon père dit à ma mère « Il faut préparer les enfants, nous allons partir pour la France, dépêche-toi » Nous nous joignîmes à plusieurs centaines d'hirondelles qui, rassemblées sur les murs délabrés d'une villa en ruine, attendaient l'heure du départ. Et à un cri que poussa notre guide, toutes ensemble nous partîmes à tire-d'aile. Quel beau voyage je fis! C'était en avril, la saison où naissent les premières roses. Partout nous rencontrions de la verdure, des fleurs et du soleil. Nous traversâmes la Grèce d'une seule volée. Le lendemain, notre caravane, qui avait laissé bien loin derrière elle Venise, Rome et Florence, fit halte tout près de Naples, au bord de la mer. Sur la toiture mouillée, pourrie d'une cabane de pêcheurs. Ah, ce jour et cette ville, je les maudis. Car c'est sur cette plage que je connus le Martinet, qui plus tard devait être votre père. Avant notre arrivée, je l'avais vu voleter près de moi avec une certaine affectation, mais il ne savait pas, il n'osait pas m'adresser la parole. Et ce ne fut qu'au jour tombant qu'il vint me demander en mariage à ma mère. Moi, je me tenais à l'écart, indifférente en apparence, mais en réalité heureuse et confuse de cette démarche qui, en me faisant goûter à des plaisirs jusque-là inconnus, me remplissait la cervelle de rêves dorés. Il était si bien votre père à cette époque. Je vois encore les teintes bleuâtres de ses ailes et la touffe de plumes blanches qui descendait gracieusement sur les côtés de son cou. Sa tête fine, qu'éclairaient deux grands yeux, respirait la franchise et la résolution. Parfois, il la secouait avec des mouvements de fierté qui me remuaient le cœur. Oh, tout cela m'eut bien vite séduite. Il plut aussi à mes parents. Ils me consultèrent et Croyant faire mon bonheur, ils acceptèrent ses propositions. On nous fiança. Le lendemain, nous étions mariés. Et le soir de ce jour, mon père, ma mère et ma sœur me dirent adieu en pleurant. Mes amis d'enfance m'embrassaient une dernière fois. Et la caravane partit, se dirigeant vers la France. Nous fûmes presque heureux de cette séparation. Nous voulions jouir de la vie à l'écart. Nous voulions cacher notre amour et nos baisers, loin des vivants, près du ciel, dans quelques trous capitonnés de mousse, que les rayons du soleil viendraient visiter, seuls. Que nous importaient à nous les grandeurs et les gloires de ce monde? Nous n'avions qu'une ambition, vivre en nous aimant jusqu'à l'heure de la mort. Nous restâmes encore une semaine en Italie. Un jour, mon Martinet me parla ainsi. Il y a tout là-bas, de l'autre côté de la mer, une terre bénie à laquelle les hommes ont donné le nom de Provence. C'est le paradis des hirondelles. Je suis presque certain que nos familles y sont établies un jour. Devrions nous y fixer. Dis, chérie, le veux-tu? Je répondis affirmativement, car ma volonté était la sienne. Peu après, nous nous mettions en route. Nous traversâmes la Méditerranée. Le vent du nord soufflait avec furie. Le voyage fut pénible. Pour reprendre des forces, nous étions obligés de nous laisser emporter par les vagues blanches d'écume. Nous gagnâmes enfin la terre ferme. Et après avoir visité plusieurs villages, nous résolûmes de nous arrêter dans le creux d'une cette vallée. Votre père décida que nous habiterions notre lit sous la toiture de ce couvent. Et là, en effet, nous devions vivre en paix. Ce lit n'est autre que celui-ci. L'œuvre de la nidification fut bientôt accomplie. Nous travaillions si volontiers, votre père et moi, et nous étions si heureux. Il fallait nous voir partir dès le réveil pour aller voler des brins de paille dans la cour d'une bergerie du voisinage, ou bien pour aller du côté de la Durance à la recherche des flocons de laine arrachés par les épines des buissons aux toisons des moutons errants. Que de charmantes caseries, que de longs baisers pendant les heures de labeur. Nous rentrions au nid chargé de butin. Et à peine quelques minutes de repos, nous repartions encore. Nous ne nous séparions jamais. Il me disait son amour. Il lisait le mien dans mes yeux. Que nous faisait le reste? Il nous arrivait souvent d'aller passer la nuit loin de là, au hasard, du vol dans un trou de muraille que les clartés des étoiles nous avaient permis de bien nous revoir. Alors, c'était des rires à n'en plus finir et des émotions inattendues, pleines de jouissance. Avec quelle hâte nous revenions le jour d'après, et comme le duvet de notre nid nous semblait doux au retour. Ô ivresse de la vie de miel, qu'êtes-vous devenu? À cet endroit de son récit, l'hirondelle s'arrêta, exténuée, vaincue par la fatigue. Elle ouvrit son bec à plusieurs reprises, comme pour reprendre haleine et continua ensuite. Le réveil ne tarda pas à venir, et Dieu sait s'il a été douloureux. Vous veniez de naître quand je m'aperçus que celui auquel j'avais donné ma jeunesse et mon amour était indigne de mon affection. Il ne m'entourait plus de soins de prévenance. La mauvaise humeur ne le quittait pas. Il désertait le nid à la pointe du jour et ne revenait qu'avec les premières ombres de la nuit. Ah, mes mignons, que de fois j'ai silencieusement dévoré mes larmes en vous donnant la becquée. Votre père ne tenait aucun compte de ses devoirs d'époux. Pendant la période de l'incubation, tandis que j'étais retenu au lit, au lieu de songer à la nourriture de la famille, il vagabondait par les champs en compagnie de mauvais garnements de son espèce. C'est sur moi que pesaient toutes les charges du mariage, ménage. Les premiers temps, j'eus assez de force pour suffire à ces 1000 occupations. Mais à la fin, la tristesse aidant, je sentis ma santé s'altérer et ma volonté faiblir. Votre père ne s'apercevait pas de cela. Est-ce qu'il pensait seulement à nous? Moi, je luttais toujours. La vie d'une mère est moins précieuse que celle de ses enfants. Alors un soir, des idées de révolte s'emparèrent de moi. Lasse de ses efforts, j'osais élever la voix dont celui qui avait empoisonné mon existence était comme folle. Je lui fis des réprimandes sur sa conduite. Je lui parlais de vous. Ses reproches l'irritèrent. La colère l'aveuglait. Il me donna tant de coups de bec que je faillis en mourir. Je résolus alors de me résigner à ma triste destinée. Attendons, me disais-je, plus tard, la mort sera ma libératrice. Votre père ne m'adressait plus la parole. Il ne venait que pour prendre part à nos repas. Il passait le reste de la journée dans les environs, auprès d'une hirondelle de mœurs légères dont il s'était amouraché. Un jour, il ne rentra pas. Je l'attendis, dévoré par la fièvre que la jalousie avait allumée en moi. Au fond, malgré tous ses défauts, je l'aimais, ce coureur d'aventure. Je sentais que j'étais né pour lui, et s'il avait voulu, il aurait eu bien peu de chance à venir faire que le ciel de notre amour restât toujours azuré. Je guettais en vain sa venue. Les semaines s'écoulèrent sans m'apporter de ses nouvelles, et depuis son départ, je n'ai plus entendu parler de lui. Il y eut un silence. Il fut impossible à l'hirondelle de continuer. Je la voyais ouvrir faiblement ses jolis yeux. Elle battait l'aile de ses ailes brusquement ouvertes en criant « Je souffre, mon Dieu, comme je souffre !» Soudain, la mort s'empara d'elle, la tordit et la renversa brutalement sur sa couche. Les petits sanglotaient, se précipitèrent sur le corps déjà froid de leur mère. Je n'eus pas le courage de rester là plus longtemps. C'est bête comme tout le monde, mais lorsque le même matin, vers 10 heures, après avoir pris congé du prieur, je quittais le monastère, j'avais l'âme navrée. Et pendant le retour, tout le long du chemin, le souvenir de cette agonie d'oiseau me poursuivit.